Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'entretien tous les soirs par Les Temps qui courent, écoute les artistes. Et ce soir, c'est une soirée spéciale prix du roman des étudiants France Culture Télérama avec la romancière Pauline Delabroix-Allard.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, péter, péter.
Par Les Temps qui courent.
Ça y est, tu vas te
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Lire, parler des livres, en acheter, se le prêter, les emprunter à la bibliothèque, reparler des livres, en recopier des passages, en envoyer certains par texto, tout ça les étudiants et les étudiantes de France le font très bien et depuis des lustres. Rencontrer les auteurs de 5 livres de la rentrée littéraire, débattre en librairie et à l'université de leurs propres textes, c'est ce que propose le prix du roman des étudiants France Culture Télérama depuis 6 ans. Il a été attribué cette année à votre livre, Pauline Delabroix-Allard, et on a décidé de faire durer le plaisir en conviant 3 membres de ce géant jury littéraire à mener l'entretien à mes côtés ce soir. Lucie Couturier, Lola Courtilla, David Dana, bonsoir à tous les 3.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et bonsoir à vous, Pauline Delabroix-Allard.
Bonsoir.
Bravo.
Merci.
Votre livre s'appelle « Ça raconte Sarah ». Il est paru aux éditions de minuit à la rentrée littéraire de septembre. Est-ce que Lucie, tu nous dis 2-3 mots supplémentaires pour compléter ma présentation du prix France Culture Télérama ?
Oui, alors le jury cette année était composé de 700 étudiants avec le soutien de 30 librairies indépendantes. Et après 2 mois de lecture, une trentaine de rencontres dans toute la France, votre roman, Pauline Delabroix-Allard, qui a été élu pour Ça raconte Sarah. Parmi les 4 autres romans qu'on pouvait trouver, il y avait Arcadie, ou encore 3 enfants du tumulte, aussi La robe blanche et leurs enfants après eux. Mes camarades ici présents ont également eu l'occasion d'intervenir sur votre roman pendant l'émission La Dispute, que je vous encourage donc à écouter.
C'était une super dispute et puis c'était réjouissant de prise de position littéraire. Je cite les auteurs, ce que tu l'as pas fait, Emmanuel Bayamaktam, Yves Bichet, Nathalie Léger et Nicolas Mathieu.
Merci.
Ben on commence comme d'habitude par une bonne archive.
C'est la nécessité, si vous voulez, c'est la grande tentation du romancier, du dramaturge, de peindre l'amour malheureux. L'amour heureux n'a pas d'histoire. Ça n'explique pas tout, naturellement. Je veux dire que il ne faut pas tout de même perdre de vue cette chose très simple que le romancier, que le dramaturge va tout droit à l'amour malheureux, parce que c'est l'amour malheureux qui lui fournit son drame, n'est-ce pas ? Maintenant, ceci dit, il est très certain que moi, personnellement, j'ai été toujours très attiré par le désert de l'amour, c'est-à-dire par la solitude dans l'amour, par l'impossibilité d'atteindre l'autre, comme dirait Sartre, de le posséder en tant qu'il est un autre. Et c'est ce drame, naturellement, que j'ai décrit et que j'ai repris dans toute espèce d'histoire plus ou moins imaginée et inventée, que je n'ai presque jamais pris au réel d'ailleurs. Mais enfin, c'est toujours à cela que je reviens, n'est-ce pas ? Au désert de l'amour. Au désert dans l'amour.
On entend une archive de François Mauriac, on connaît pas la date, mais on peut vous dire la provenance, puisque c'était une série LSD, une série documentaire titrée « Écrire l'amour » et proposée par Virginie Bloch-Lenné. Alors peut-être, Lola, on rebondit là-dessus pour une première question à Pauline Delabroix-Allard.
Oui, on entend François Mauriac parler de tentation, de nécessité. Du coup, la question c'était, voilà, de quelle tentation et de quelle nécessité, peut-être, votre roman est le fruit ?
Eh ben, pour vous répondre, la nécessité, pour moi... Vraiment, c'était d'écrire cette scène qui ouvre Ça raconte Sarah. Cette scène d'une prologue qui m'a obsédée pendant des semaines jusqu'à un matin où je me suis dit, il faut que ça sorte de moi. J'en peux plus de me réveiller chaque matin avec cette scène en tête. Je vais l'écrire. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en l'écrivant, j'ai vu que ça suffisait pas, que ça allait s'inscrire dans une histoire que j'avais envie de raconter. Et donc, voilà. Mais c'était la nécessité de sortir de moi une scène qui me hantait.
On peut la rappeler, cette scène ?
Alors oui, pardon, excusez-moi, pour ceux qui l'ont pas lu ce livre, c'est un prologue, un prélude de 3 pages où on assiste à, comment dire, une espèce de nuit, voilà, dans un lit, et on découvre qu'en fait, ce sont deux femmes qui s'y trouvent, dont l'une est probablement malade, voire morte.
Vous parliez de vous libérer, peut-être. Vous êtes déchargée de ce fardeau-là.
Le jour où j'ai écrit ces trois pages, j'étais vraiment, j'étais contente, quoi. C'est-à-dire qu'enfin, enfin, c'était sorti de moi. Après, il y a eu tout le travail d'écriture du roman qui, voilà, qui, où j'ai traversé plusieurs étapes. Mais en tout cas, le jour où j'ai posé ces mots-là sur le papier, ça m'a enlevé quelque chose dans le cœur, en tout cas.
Et justement, pour parler du travail de l'écriture, parce que donc on voit qu'il y a deux parties, et moi j'ai relu le livre une deuxième fois pour cette émission, et ce qui m'a marqué, c'est un moment, la narratrice, elle offre un sac en cuir jaune à Sarah, et Sarah lui offre un rosier rouge. Le rosier, il meurt direct, et le sac, on sent que ça va durer très longtemps, et qu'elle va le garder sous le bras, Sarah, comme une besogne. Et donc, est-ce que quand vous avez écrit le roman, il y avait comme ça des axes clés pour faire comprendre au lecteur minutieusement ce que vous voulez dire, ce que vous allez amener ensuite par la suite dans le roman en deuxième partie?
Des indices.
Ouais, bah, il y a plein de petits indices, et j'aime beaucoup les lectrices et les lecteurs qui jouent un peu au détective, parce que je pense que ça se voit pas forcément justement à une première lecture, et si on prend la peine ou en tout cas le temps de relire une seconde fois, il y a des choses qui apparaissent, j'imagine, que j'ai semé ça et là, et oui, à dessein évidemment, dès les premières pages. De toute façon, j'avais envie, et c'est pour ça que le prologue se situe là, alors que chronologiquement, en réalité, il se situe plutôt plus loin dans le récit, mais j'avais envie que le livre s'ouvre comme ça pour ne pas duper les gens qui allaient me lire, pour que d'emblée on sache que j'allais pas raconter une belle histoire d'amour, mais plutôt une tragique passion.
Pourquoi il fallait le dire tout de suite que c'était pas une belle histoire d'amour?
Parce que justement pour ne pas duper mon lecteur, je déteste moi être dupée, qu'on m'annonce des choses incroyables qui ne se réalisent pas. J'avais vraiment envie qu'on...
Pas de suspense,
qu'on,
quoi.
Voilà, pas de suspense, qu'on sache qu'on allait lire l'histoire d'une passion. Enfin, moi je fais vraiment la distinction entre une histoire d'amour et l'histoire d'une passion. Et j'avais envie d'écrire l'histoire d'une passion, donc j'avais envie de l'annoncer. Donc voilà, ça a été mon effet d'annonce.
Mais du coup, justement, vous tuez dans l'œuf l'histoire d'amour en mettant directement le mot interdit au début dans le prélude. Mais moi je me suis senti un peu avare dans le sens où c'est une très belle histoire d'amour, mais on sait jamais en fait si la maladie elle est réelle ou si juste c'est une maladie d'amour. Et est-ce que du coup Sarah va dépérir de la maladie de l'amour, comme on peut avoir tous quand on est malheureux, de l'amour en tant que tel avec un grand A, ou si c'est vraiment une vraie maladie? Parce qu'on voit dans le roman que elle place un poignard dans le cœur de Sarah sous son sein gauche, et c'est un cancer du sein gauche, et le sein gauche là où il y a le cœur. Donc il y a plein de rappels comme ça, et à chaque fois on se dit est-ce que au final c'est une maladie, une réelle maladie, ou bien si c'est une maladie d'amour?
Il y a plusieurs zones un peu de, j'allais dire d'ombre, mais en tout cas il y a plusieurs zones floues dans le roman, et j'ai vraiment l'ai écrit dans ce sens-là, c'est-à-dire que moi j'ai des réponses intimes mais que je ne livrerai jamais, et voilà. Et il s'agit pas uniquement de Sarah, d'ailleurs la narratrice aussi, finalement on sait pas quel est son destin, et ce qui me plaît, c'est qu'on puisse s'imaginer, que certains puissent y lire justement une espèce de métaphore comme ça, de l'amour fou qui brûle tellement à l'intérieur qu'il rend malade au sens propre du terme. Voilà, d'autres sont très premier degré et ils voient une vraie maladie. Enfin, il n'y a pas de bonne réponse, je pense.
Et cet amour fou, pour qu'ils soient encore plus fous, vous l'avez fait rencontrer une femme. Peut-être que si ça avait été une femme et un homme, ça aurait été peut-être moins fou. Est-ce que le côté femme-femme, ça vous fait rendre l'histoire d'amour encore plus originale qu'elle ne l'aurait été si ça avait été un homme et une femme?
Ce qui me plaisait, c'était de pouvoir raconter un premier amour, parce que le fait que ce soit deux femmes, ça me permet ça. C'est-à-dire, c'est deux femmes qui ont manifestement chacune d'entre elles eu déjà des amoureux. C'est la première fois qu'elles aiment une autre femme, et du coup, elles ont l'âge qu'elles ont, mais elles vivent quand même comme un premier amour. Et donc, il y a dans cette première partie, en tout cas, tout le côté un peu, j'allais dire, enfantin, mais ou adolescent, en tout cas, une espèce de chose comme ça qu'on vit normalement qu'une fois, puisque c'est le premier amour, et que là, elles revivent ou qu'elles vivent une espèce de fougue comme ça, de joyeuseté qui peut se passer quand on tombe amoureux la première fois.
Et je rebondis là-dessus, c'est très important aussi de parler de cette joie, parce qu'on est sur une passion qui peut être ombrageuse, mais il y a aussi toute la joie des presque adolescentes de partager quelques abricots sur un bord de trottoir. Cette joie-là, est-ce qu'elle se nourrit, selon vous, nécessairement de la partie passion obscure?
Oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un jeu de miroir en fait, ou de un jeu d'écho, un jeu de contraste entre évidemment ces moments très lumineux, très joyeux, d'une espèce de pureté comme ça. Voilà, c'est pour ça que je parlais presque d'enfance. Enfin, qui contraste évidemment avec ce qui va se passer ensuite, l'espèce de magie noire de la passion qui fait que d'un coup tout dégénère et que la souffrance prend le pas sur la joie.
Oui, parce que finalement, vos deux personnages sont vraiment construits en opposition. C'est ce qu'on peut comprendre. Il y en a une qui est plus à attirer l'autre dans son piège. Je ne sais pas comment vous percevez ça. Est-ce que l'amour doit forcément avoir un ascendant qui est cette perception-là?
Je ne sais pas si on peut parler de piège. Elle y va, la narratrice. Enfin, si la piégeuse serait Sarah, la narratrice y va quand même avec bon gré. Enfin, mais en fait, j'ai voulu un livre en mouvement et j'espère qu'on peut lire ça. C'est-à-dire que l'ascendant, finalement, il bouge. On ne sait pas très bien. Alors, certes, au début, on dirait que Sarah, c'est même parce que c'est cette figure lumineuse qu'elle est. Elle se place comme un soleil pour la narratrice qui, elle, est en retrait, qui l'observe, voilà, qui est avec admiration, avec dévotion presque. Mais ensuite, enfin, j'ai le sentiment que voilà, les choses bougent et que quand la narratrice décide de partir en Italie, là, elle devient personnage. Elle devient à son tour quelqu'un qui prend des décisions, qui...
Elle trouve un deuxième soleil, quoi, en Italie.
Ouais.
On y reviendra évidemment sur la construction en deux temps et sur ces deux lieux et ces deux géographies, mais peut-être simplement pour continuer de poser le décor de l'écriture de cette histoire d'amour, dire que vous n'écrivez pas une histoire d'amour, Pauline Delabroix-Allard, mais une passion et que vous faites la distinction. J'ai même lu que vous pensiez écrire quelque chose de plus politique en écrivant une passion qu'en écrivant une histoire d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que c'est quand même moins convenu dans le sens où les histoires d'amour, on en connaît tous, on en a lu depuis l'enfance, on nous raconte ça. Alors que moi, j'avais envie de montrer vraiment que certes l'amour c'est très beau, mais c'est aussi ça peut être très destructeur, ça peut rendre malade, ça peut. Et puis voilà, en fait, moi je voulais poser la question, est-ce qu'on peut mourir d'amour ? Est-ce que c'est possible ? Parfois, en fait, en librairie, il y a des gens qui me disent j'ai bien aimé votre livre, mais ça, il m'a rendu triste parce que moi, j'ai jamais vécu ça et j'ai l'impression que je vivrai jamais ça. Mais je dis, mais peut-être quelle chance, en fait. Enfin, non, mais voilà, je ne regrettez pas. Peut-être qu'en fait, c'est au contraire, vous êtes bénis des dieux.
Elle part en tournée, avec son quatuor. Elle me laisse exsangue. Elle m'écrit « Rejoins-moi, je meurs sans toi ». Elle m'écrit « Viens, je t'attends, la vie n'a pas de sens si tu n'es pas là ». Elle m'écrit « Je joue au château de Chambord, c'est très beau ici, allez, rejoins-moi ». Elle ne sait pas qu'à ces mots, je tressaille, que je boucle ma valise dans l'heure, que je saute dans des TER obscurs, que j'entreprends un voyage de 7 heures, qui commence par un cappuccino au bar de l'arrivée. À la gare de Montceau-les-Mines, où les chiens errants errent dans des herbes touffues et vert tendre, je découvre la mort de Yann Andrea dans un libé chouré sur un banc. 14h59, il reste encore 4 heures avant l'arrivée. Dans la chaleur qui rend trouble les rails de la gare de Moulins-sur-Allier, manger un jambon beurre et boire une limonade, c'est sûrement exactement ce qu'il faut faire, en commençant la lecture, les yeux plissés sur le quai désert, d'un livre jamais lu d'Hervé Guibert qui s'intitule « Les aventures singulières ». Elle m'écrit « Oh vite ma chérie, vite mon amour, je me languis de toi et j'ai besoin de ta peau ». Je cours comme un dératé à Saint-Pierre-des-Corps pour attraper ma dernière correspondance. Le soleil décline. Je voyage depuis le petit matin. À la gare de Blois, je prends un taxi pour Chambord. Je suis époustouflé par la vue du château, qui apparaît, d'un coup, au détour d'une allée. Elle m'écrit « Nous commençons les balances, on joue le quintet de Franck. C'est si beau ». J'ai hâte que tu entendes ça. Je cours sur les gravillons qui mènent au château, mon sac de voyage en bandoulière. Elle est là, au loin, toute petite silhouette, marchant délicatement sur la pelouse vide et abandonnée, avec ses chaussures de concert, ses chaussures à talons hauts, dans sa longue robe noire si distinguée. Elle m'étreint. Elle aspire mon souffle court entre ses lèvres. Elle règne sur Chambord. Elle domine mon cœur. Elle gouverne ma vie. C'est une reine.
France Culture par les temps qui courent,
avec Lucie, Lola, David, du jury du prix roman des étudiants France Culture Télérama, et avec Pauline Delabroix-Allard.
Comme on peut le voir dans cet extrait, il y a souvent ce rapport à la musique qui est fait. Sarah représente un peu le milieu artistique dans lequel elle embarque sa compagne. Quel est votre rapport du coup à ces milieux artistiques, littéraires, musicaux?
Ce qui me faisait plaisir aussi en écrivant ce livre, c'était la rencontre de... Et c'est ça, je réponds aussi sur la question pourquoi deux femmes. C'était la sensibilité, la rencontre de deux sensibilités féminines et notamment celle de Sarah qui est évidemment plus qu'elle joue de la musique, incarne la musique. Et c'est vraiment, elle est elle-même une espèce de mouvement comme ça sans cesse, voilà. Et du coup, j'avais envie de ce livre comme une pelote de laine dont on pourrait tirer des fils et qu'on ait envie d'aller voir d'autres choses en le lisant. Et donc, par conséquent, j'avais très envie qu'on y découvre, pourquoi pas, des morceaux de musique qu'on ne connaît pas, des œuvres de peinture qu'on ne connaît pas, des films qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît et qu'on a envie de revoir, du coup. Et donc, c'est vrai que c'est parsemé de références. Et notamment, je pense à cette octuore de Mendelssohn que j'adore, qui est un morceau absolument génial. Et quand on me raconte que après la lecture du livre, on l'a écouté, ça me fait très plaisir parce que moi, j'y ai mis tout ce qui, moi, à l'heure actuelle, les choses qui me constituent sont dans ce livre. Donc, c'est des références qui me sont extrêmement chères et que j'ai envie de partager.
Vous dites que ça incarne la musique. Est-ce que c'est une forme de sirène qui attire par son chant?
Alors c'est une très jolie image, ouais. Mais dans l'extrait on entend c'est une reine, mais Sarah c'est une reine et c'est une sorcière, c'est les deux à la fois. Donc la sirène c'est un peu ça, il se trouve qu'elle est tout autant charmante que désagréable, quoi. Enfin même que terrifiante en fait. Et la sirène c'est ça, elle charme pour mieux emprisonner.
C'est un livre qui est excessivement charnel. Comment vous faites le lien vous entre ce livre très charnel et la poésie qui en sort?
Bonne question. Le charnel, c'est très poétique, hein, je trouve. Non, c'est quoi?
C'est un vrai pari aussi de rendre charnel un corps qui, dès le début, est un corps malade.
Dès le début est un corps malade, mais comme on l'a dit, ce début finalement dans la chronologie du récit se trouve
chamboulé,
on va dire au milieu, et avant le corps malade, il y a le corps glorieux, le corps plus qu'aimé, le corps adoré, le corps sublimé du personnage de Sarah qui est comme une révélation pour la narratrice qui, voilà, elle encore une fois n'avait jamais fait l'amour avec une femme et qui découvre ça. Donc c'est très important, mais il n'y a pas que l'amour, il y a manger, il y a boire, il y a dormir, il y a toutes ces choses qui font que l'amour est l'amour. Et du coup oui, c'est très, enfin, on touche au poétique.
Alors, à la fois, il y a ce réalisme que vous décrivez, du coup, manger, etc. Et en même temps, ces descriptions qui sont faites, ces précisions qui sont apportées, elles sont tout le temps déformées. On sent que la réalité vécue, elle est déformée par l'obsession amoureuse. Et alors, est-ce que dans votre roman, du coup, la poésie, elle n'enferme pas plus qu'elle ne libère?
Alors, j'avais envie de raconter comment, quand on est très amoureux, on peut voir dans chaque chose qui nous arrive un lien avec ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est vraiment symptomatique de cet état d'amour dans lequel la vie parfois nous plonge. Et donc, oui, c'est un enfermement. Mais parce que voilà, c'est un livre sur l'obsession. C'est un livre sur le ressassement. Quand on est dans une histoire comme ça aussi forte, on sait plus s'en sortir, et du coup chaque chose qu'on peut vivre, c'est très bien raconté par Barthes par exemple, tout fait signe, tout fait sens, tout est signal. Donc voilà, le titre d'un film qui pourrait être anodin si on y allait avec une copine, on y va avec son amour et d'un coup voilà, ça fait sens, on en fait une devise, enfin, mais ça c'est l'état de la passion qui veut ça.
Est-ce que c'est aussi l'état de l'écriture, Pauline Delabroix-Allard? Est-ce que quand on est en train d'écrire un roman, tout fait signe, tout fait sens et donc tout agrège? Peut-être pour poursuivre la question de Lucie et toutes ces références ou ce monde artistique là, que ce soit je sais pas, dans un seul passage, Hervé Guibert, Yann Andrea qui meurt, on l'apprend par un libé trouvé sur un banc, tout ce que vous êtes en train d'écrire appelle tout un monde sensible et artistique pendant l'écriture.
C'est un peu le même état. Ouais, c'est un peu. Mais d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour la narratrice. Une fois qu'elle a perdu sa Sarah, elle trouve refuge dans l'écriture. On ne sait pas très bien ce qu'elle écrit, mais en tout cas, elle écrit. Mais parce que c'est le même genre d'état obsessif. Enfin, oui, on a qu'une chose en tête. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai l'année pendant laquelle j'ai écrit ce livre. J'avais que ça en tête, à tel point que j'arrivais plus à lire autre chose. J'arrivais pas à écouter de la musique. Enfin, voilà, ça m'habitait, ça m'occupait, comme dirait Annie Ernaux. Et voilà, j'ai été occupée comme quand on est amoureux.
Et encore pour poursuivre ta question, parce que je l'aime bien, Lucie, à savoir, est-ce qu'il y a une sirène qui amène cette Sarah là, ce grand soleil? Elle tire aussi votre narratrice, qui est sans nom, mais on y reviendra. Elle la tire vers un monde artistique qui devient le leur. Mais au départ, c'est vraiment Sarah la musicienne qui lit, qui est pleine de d'art, et puis la personne qui tombe amoureuse d'elle, qui d'une certaine manière la rejoint. Est-ce que vous avez vu tout à l'heure, vous parliez de mouvement, le mouvement dans cette direction? Là.
Oui, c'est une éducation sentimentale. En fait, elle lui apprend, elle lui montre le chemin. Je sais pas, elle la nourrit. Et du coup, il y a comme une passation. Il se passe quelque chose. En fait, Sarah, c'est une espèce de vecteur. Elle permet à la narratrice d'avoir accès à des choses qu'elle ne connaissait pas et pour lesquelles elle se prend de passion. Parce que c'est ça aussi qui est beau quand on est amoureux, c'est qu'on a envie de d'épouser l'univers de l'autre. Et là, il se trouve que Sarah est richissime, regorge en tout cas de choses à montrer. Elle est curieuse de tout, donc du coup, elle attire la narratrice vers beaucoup de choses, à commencer par la musique classique.
Du coup, on remarque quand même un déséquilibre. Vous dites que les choses peuvent se renverser, que c'est l'une, c'est l'autre, mais finalement, c'est quand même toujours la même qui subit, et c'est toujours elle qui regarde Sarah en disant, elle répète souvent, elle est vivante. Moi, je vois quand même un déséquilibre dans cette passion.
C'est un grand sujet, ce personnage de Sarah. Moi, quelqu'un un jour m'a dit, mais enfin, quelqu'un s'est fâché dans une librairie en me disant, mais vraiment, vous allez le dire maintenant que c'est une perverse narcissique, alors que moi, j'ai pas du tout voulu ce personnage comme ça. Je pense qu'après, il y a pas mal de projections de lecteurs. Moi, je voulais ce personnage comme un soleil incandescent, le soleil qui fait du bien, le soleil qui brûle. Oui, il y a un déséquilibre dans le sens où elle a l'ascendant, c'est elle qui fait la déclaration, c'est elle qui ensuite effectivement tire la narratrice hors d'une vie qui manifestement n'était pas très excitante, exaltante, mais quand même, je pense que c'est quand même, ça marche à deux, une histoire d'amour, donc les deux sont parties prenantes.
Mais justement, l'ascendant, il se fait encore plus valoir dans le sens où tout est muet, rien n'est notifié, il n'y a pas de nom, à part celui de Sarah. C'est aussi pour ça que je pense qu'on peut vous faire cette réflexion-là, c'est que Sarah, et tout le reste est invisible. L'enfant n'a pas de nom, s'il s'appelle l'enfant. Il y a un mari qui n'existe plus dès le début du roman. Un deuxième qui intervient, on ne sait pas trop pourquoi. Vous partez en vacances, mais c'est vraiment pour Sarah. Enfin,
Partez en vacances comme vous y allez.
Non, pardon. La narratrice part en vacances et il y a tout un processus comme ça d'écrasement du reste pour que ce soit un hôtel érigé à la gloire de Sarah. Donc c'est vrai qu'en tant que lecteur, on peut vite se laisser prendre à détester Sarah si on entre en empathie avec la narratrice.
Ou tomber amoureux.
Moi, je suis tombé amoureux.
Tout se trouve dans le si. C'est de quel côté on se place. En réalité, moi, quand je me suis lancée dans l'écriture de ce roman, donc je vous l'ai dit, il y avait cette scène qui m'obsédait et que je voulais absolument sortir de moi. Mais après ça, j'avais envie de me frotter à la question du portrait. Et j'ai vraiment, enfin, c'était mon idée première, c'était de faire le portrait d'une femme et le portrait d'une ville. Voilà, je voulais faire un portrait. Et donc, effectivement, il n'apparaît qu'elle. Et c'est un choix d'avoir laissé les autres sans prénom, si j'ose dire, parce que je voulais que dans le tissu même du texte, on puisse ne lire que ce prénom, que si on parcourt comme ça vite un peu, qui revienne de manière complètement obsessionnelle et qui soit sur la couverture. Alors là, c'était un très bon choix de titre. Je le dis parce que c'est pas le mien, c'est celui de mon éditrice. Mais il me plaît infiniment parce que voilà, encore une fois, on ne dupe personne. Il s'agit de Sarah et donc
oui, ça raconte Sarah.
Et donc elle domine le récit. Oui.
Vous parliez de Barthes et on l'écoute.
J'aime beaucoup commencer. J'ai un plaisir d'invention à trouver ou à faire l'attaque d'un paragraphe, l'attaque d'un fragment. J'aime bien commencer, j'aime bien rompre, j'aime bien imaginer la rupture avec le rien qui précède. Alors, évidemment, en multipliant les fragments, je multiplie les plaisirs d'attaque. Parce que, finalement, mes fragments, en tout cas les fragments idéaux que je voudrais produire, ne seraient pas tellement extravagants. Je veux dire, ce qu'on appelle le fragment, c'est quelque chose qui a des contours très irréguliers. C'est parce que ce qu'on appelle en mathématiques les objets fractales ou fractaux, ce sont des objets déchiquetés comme... les côtes de la Bretagne, on donne toujours ça en exemple. Or, en réalité, j'aimerais beaucoup des fragments qui auraient un certain calibre, une certaine dimension, une certaine régularité. Mais ce qui me plaît, encore une fois, c'est l'interruption. C'est ça qui me plaît. Et aussi la fin, dans la mesure où la fin du fragment pose un problème de composition, disons, intéressant, à savoir qu'il faut bien finir le fragment sans le finir sur un coup de trompette.
On entend à l'instant Roland Barthes en 1978 sur France Culture parler de fragments, de paysages écorchés parfois. Et c'est vrai que dans ce magnifique texte, on voit des fragments qui sont sous la forme de définitions. Et alors ça peut intriguer. Quel est le rôle de ces définitions-là, qui sont parfois d'ordre médical, parfois d'ordre très éloigné de la littérature ?
Alors plusieurs choses, c'est vrai qu'il y a, j'appelais ça quand j'écrivais le livre dans ma tête les passages d'écriture objective. Et en fait au début ils ont été placés là parce que quand on vit une passion, on a un sentiment très vite d'irréalité ou de surréalité, enfin ou d'une réalité à côté de la vraie réalité. Et en fait c'était le moyen pour la narratrice de se raccrocher à quelque chose de concret, de se rapprocher de finalement la vraie vie, si j'ose dire. Elle, c'est sa manière à elle de se rassurer dans cette espèce de bouleversement qu'elle vit, de tremblement de terre, c'est de aller voir dans le dictionnaire, dans l'encyclopédie, des choses très concrètes et qui font toujours sens. À nouveau, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand elle se renseigne sur
La latence, par exemple, la passion,
mais même des notices géographiques. Finalement, tout ce qu'on lit quand on est dans cet état-là fait sens. Et on ouvre le dictionnaire qui, pour le coup, est censé être la chose la plus objective du monde. Et ben, pour autant, elle se retrouve quand même à y lire entre les lignes des choses qui la concernent. Donc voilà. Donc même quand elle essaye de se raccrocher à la réalité, il y a cette irréalité qui continue à la reprendre.
C'est vrai que même dans les passages comme ça, où on sent l'objectivité et peut-être la documentaliste derrière, on a ce glissement de nouveau vers le souffle ininterrompu du récit en continu. Et c'est des vraies bouffées d'oxygène aussi pour la narratrice. La narratrice, est-ce qu'elle est perdue ? Vous la jugeriez comme telle ?
Mais non, vous lui faites un procès pas possible.
Non, c'est une bonne chose d'être perdue.
Moi, j'aime beaucoup le personnage de la narratrice. Vraiment, elle m'est, j'allais dire sympathique, mais elle m'est, enfin, j'ai beaucoup de tendresse pour elle aussi. Et non, je pense pas qu'elle soit perdue. Elle est juste complètement déstabilisée par ce qui lui arrive. Comme Sarah finalement. Mais ces passages-là, c'était pour faire des pauses aussi dans l'espèce de tension qu'amène la passion, de faire des pauses pour elle et puis pour le lecteur, parce que je crois qu'il y a un moment donné où finalement cette écriture très fragmentaire, comme disait Barthes, très dans l'urgence, dans la rapidité, je pense que c'est fatigant à lire et donc j'avais aussi envie qu'on puisse se reposer dans le texte.
Mais peut-être juste avant de passer à une question de David, savoir le choix de cette fragmentation, puisque tu parles, Lola, de ces moments un petit peu particuliers de fragments où on s'en réfère à des définitions, on reprend le souffle, mais avant ça, il y a quand même des passages qui ne sont que des fragments et que des fragments amoureux. C'est un choix qui s'est imposé dès le départ.
Bah oui, dès le départ, quand j'ai voulu m'essayer à cette question du portrait, c'est ce qui m'est venu parce que j'avais envie de coller à cette impression qu'on a quand on rencontre quelqu'un et qu'on a plaisir à le ou la fréquenter, qu'on tombe soit en amitié, soit en amour. Et ben on n'a pas accès à toute une personnalité d'un coup, c'est-à-dire qu'on découvre quelqu'un petit à petit, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et que à chaque fois on a masque des espèces de pièces de puzzle comme ça qui font finalement l'histoire d'une amitié, l'histoire d'une personnalité et ou pourquoi pas l'histoire d'amour. Mais quand l'histoire est établie, on a du mal à se souvenir de ça, qu'on a d'abord juste remarqué, bah tiens, elle porte telle robe, elle utilise telle expression, c'est charmant, etc. Et donc j'avais envie, moi, de essayer par l'écriture de retrouver ça. Et puis parce que ce personnage de Sarah est complètement insaisissable, c'est quelqu'un qui s'en va, qui revient, qui court, qui est jamais là ou jamais là où on l'attend. Donc du coup, ça me semblait être le meilleur moyen pour essayer de portraiturer ça. Et du coup, l'écriture change un peu dans la deuxième partie.
Et vous avez une écriture qui est journalière, qui est vous écrivez dans des journaux intimes assez régulièrement. Et justement, quand vous parlez d'histoire, on sent pas du tout le côté histoire dans votre livre. C'est vraiment à la fin, on se rend compte qu'on s'est fait prendre dans votre narration parce que c'est bien écrit et que ça nous a plu. Mais il y a pas ce côté elle est en train de mettre des petits points pour créer le passé de la narratrice, ensuite un début, une fin. Enfin, c'est vraiment un objet très incisif comme ça. Et du coup, on tourne un peu du pot. Mais désolé, je vais vous poser la question. Mais vu qu'il y a beaucoup de journaux intimes dans votre travail, est-ce qu'il y a pas quand même un morcellement qui vient de votre propre vie qui s'écoula dans ce roman, parce que l'histoire d'amour elle est quand même très réaliste, quoi.
Bah, j'ai tendance quand on me pose cette question à répondre que tout est vrai, tout est faux. Je m'en cache pas, j'ai aucune imagination. Mais c'est vrai, je suis incapable d'écrire des grandes histoires, des épopées, des choses inventées. J'admire chez les autres, mais ça m'intéresse pas. Et par conséquent, dans ce livre, il y a beaucoup de moi. Il y a aussi beaucoup de choses que j'ai vues, de choses que j'ai entendues. Monter de toute pièce, voilà cette expression, voilà c'est exactement ce que moi j'ai pas envie de faire. Donc c'est nourri de choses que j'ai pu voir.
En plus vu qu'on est dans le cadre du roman étudiant, c'est vrai que quand on est jeune, pas forcément tous, mais on a tendance à être marqué plus rapidement au fer rouge par l'histoire d'amour et peut-être à les prendre en note et à développer quand on est jeune comme ça une capacité à écrire, à se raconter. Donc c'est vrai que c'est important, je trouve. En France, on a du mal à chaque fois à parler d'autofiction. Souvent, on dit roman. Ça permet à l'auteur aussi de peut-être se protéger, ce que je peux comprendre. Mais en tant que lecteur, en tout cas, j'avais envie de savoir, pas forcément si c'était une véracité à 100%, mais savoir s'il y avait un fleuve comme ça qui s'écoulait dans les pages, qui était quand même marqué d'une vérité, quoi.
Bah, c'est pas un mystère de dire que on met toujours un peu de soi quand on écrit un livre. Je pense que c'est vrai même quand on écrit des grandes épopées, justement. Mais y a quand même écrit roman sur cette couverture et j'y tiens beaucoup. Après, c'est la question de l'inspiration, c'est une question qui est très compliquée. J'ai voulu écrire cette deuxième partie parce que j'ai eu un choc esthétique, mais hyper intense quand je suis allée à Trieste. Et donc, il se trouve que ma deuxième partie, si c'est que j'ai trouvé que c'était un décor incroyable et que si un jour j'y suis allée il y a plusieurs années déjà et je me souviens très bien m'être dit si un jour j'écris un roman, j'aimerais que figure cette ville-là. Et puis après je suis allée plus loin, je me suis dit je voudrais faire le portrait de cette ville-là. C'est une ville qui m'a vraiment bouleversée, j'y suis allée qu'une fois. Les choses se nourrissent comme ça. Mais ce qui est magique avec la littérature, c'est qu'on peut y mettre toute la vie. Et puis, c'est pas très intéressant, après, je pense, de savoir quoi exactement.
Mais justement, parce que ça fait partie de la petite discussion qu'on a eue juste avant en préparant l'émission, parce qu'on n'a pas eu le temps de davantage en parler, et c'est très bien, mais avec David, on se posait la question. Moi, je disais, c'est pas une question intéressante. Et David disait, si, Marie, tu te trompes, c'est une question intéressante, c'est une question à poser. Et David, tu le mettais du côté de la jeunesse des lecteurs et des lectrices en disant, mais en fait, on se défait de cette question-là par snobisme intellectuel. Et moi, ça m'intéresse peut-être qu'on réfléchisse à ça, c'est-à-dire que ça tenait à cœur de le poser. Pourquoi ? Parce que c'est important de savoir un vécu de romancier ou de romancière quand on a un texte dans les mains. Pour toi, ouais, c'est important.
Parce que je pense que quand on lit pas beaucoup de livres, je pense qu'on a besoin de savoir où se place l'auteur. Enfin, je pense que quand on lit, un livre tous les deux mois, par exemple, et qu'on prend le temps, parce que c'est pas notre passion et qu'on vit pas de ça, on a besoin de savoir d'où nous parle l'auteur. Et moi, en tout cas, je rentre beaucoup plus facilement dans un texte qui est honnête, entre guillemets, plutôt que dans un texte roman où je vais me dire, si je le lis à la rentrée littéraire 2018 ou 2042, de toute façon, ce sera un texte qui va être, un peu hors du temps. Et quand on a envie de lire des romans qui paraissent à chaud, on a envie du coup d'avoir comme un espèce de livre en direct. Et si c'est pas d'une expérience vécue, parce que en plus vous l'avez écrit rapidement, Donc on a envie d'avoir cette chaleur aussi entre les mains et de se dire ah c'est vrai, ça a été écrit rapidement, il y a plus de correction de l'auteur, donc c'est chaud.
Donc, honnêteté, quoi. Fiction.
Est-ce que la fiction serait mensonge?
Ouais, c'est ça. Honnêteté,
bah pour
fiction,
moi j'ai du mal à lire les livres en tout cas fictionnels, enfin les romans, les grands romans, moi ça me, après c'est un cas qui me concerne que moi, hein, mais moi ça me, j'ai plus du mal, je me dis je pourrais les lire l'été prochain, je le lirai l'été prochain. Alors que vous, vous on a envie de le lire tout de suite parce qu'on se dit ah putain ça parle à, c'est en direct quoi, c'est un flux tendu. Mais peut-être que c'est que moi. Hein.
Moi je trouve ça intéressant d'entendre ça. En effet, honnêtement, j'aurais jamais posé cette question là. Mais
c'est comme les chaînes d'infos en direct. Dès qu'on met une émission en direct, on a envie de l'écouter.
C'est plus excitant, quoi.
Ouais. On va pas la restreamer et vous, on va pas vous relire dans une édition de poche, vous voyez. On n'a pas envie de vous lire en poche, on a envie de vous lire direct comme ça sort.
Mais ce qui est magique pour moi, pour moi, ce que j'aime en littérature, c'est que je trouve que c'est pas une question dans le sens où quand c'est réussi, en tout cas, par exemple, on lit des choses inoubliables. On peut lire Demain dès l'aube de Victor Hugo. C'est un poème sublimissime. On n'est pas obligé de savoir qu'il s'agit du deuil de sa fille pour le trouver extrêmement beau, par exemple. Donc voilà, pour moi, c'est des exemples, j'en aurais, mais des centaines, et on n'a sûrement pas le temps de développer. Mais je suis pas sûre que quand c'est réussi, et ça se trouve mon livre n'est pas réussi, mais quand c'est réussi, je trouve que ça n'a pas d'importance en fait.
Importance ou pas, vous citiez Hugo tout à l'heure, c'est vrai que des exemples, vous en donnez beaucoup dans votre livre, des références littéraires. On a mentionné tout à l'heure Marguerite Duras. On sent votre envie de transmettre et de livrer comme ça, par petits indices, au fil du livre, toutes ces références-là. Est-ce que votre disons, l'enjeu qu'il y a derrière, c'est bien de faire transmettre des goûts personnels ou c'est de donner des clés de lecture?
Ben un peu
ou
les
tout
deux.
Autre chose.
Non, un peu les deux, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Je crois que c'est un livre un peu jalon dans ma construction personnelle. Donc j'y ai mis des choses qui me sont chères évidemment et pas des références qui seraient neutres ou voilà, mais vraiment des choses qui me tiennent à cœur parce que oui, j'avais envie de les partager et aussi ça me semblait important et aussi elles font sens, c'est-à-dire que chacune d'entre elles n'est évidemment pas anodine. Il y a toujours quelque chose qui fait sens dans le récit, dans cette histoire, pour comprendre l'un ou l'autre des personnages. Je les ai choisis aussi. C'est pas non plus un livre fourre-tout où j'ai mis toutes mes références personnelles, absolument pas. Elles sont toutes choisies très précautionneusement et tout ça.
Pas complètement à hasard si le Libé traîne et annonce la mort de Yann Andrea, par exemple.
Exactement.
Et donc pour la construction de roman, vous venez de le dire, la deuxième partie elle se fait à Trieste parce que vous avez aimé la ville, aimé la visiter, et vous êtes enfermé, d'après ce que j'ai entendu dans une autre émission, dans une maison de campagne pour écrire et être vraiment enfermé avec votre livre, avec votre deuxième partie, qui est quand même plus dramatique. Et est-ce que dans la première partie, comment ça s'est passé l'écriture? C'était au fil de temps, c'était après votre travail, dans des petits moments perdus, ou bien il y a eu aussi une retraite qui a dû avoir lieu pour pouvoir se mettre au travail?
J'ai d'abord commencé en écrivant entre 5h et 7h du matin pendant plusieurs semaines. 7h, c'est l'heure à laquelle ma fille se lève et à laquelle je dois enchaîner avec une journée où je ne peux pas écrire. Et donc du coup, ça a été mon biais dans un premier temps, et j'ai vite compris que ça allait pas être possible parce que c'était vraiment extrêmement fatigant. Et du coup, j'ai mis en place une espèce de stratagème un peu bizarre, et une copine m'a prêté un appartement à Paris, où j'habite pourtant, donc dans la même ville, et donc j'ai mis en place un mensonge collectif. J'ai menti à tous mes amis en leur disant que je partais en vacances, et en fait je me suis enfermée avec des provisions dans cet appartement avec qu'une seule trouille, c'est que quand je descendais boire des bières au café du bas, j'avais trop peur de croiser quelqu'un à qui j'avais dit que j'étais partie en vacances, alors qu'en fait en réalité j'étais juste voilà. Et donc je me suis fait une espèce d'auto-résidence d'écriture, mais comme je m'avouais pas à moi-même que j'écrivais ce livre, et j'osais tellement pas du coup l'avouer aux gens autour de moi, c'était compliqué de me dire je m'enferme pour écrire. Donc voilà, j'ai fait ça pour la première partie, ça s'est passé comme ça, c'était un peu bancal. Puis la deuxième partie, j'ai eu la chance d'avoir cette maison, comme vous le disiez, à la campagne.
Et du coup, pour la première partie, c'était un peu, pour moi ça me fait penser à La chambre à soie de Virginia Woolf, où vraiment elle met en exergue le fait que les femmes, c'est très difficile pour elles d'écrire, c'est qu'elles ont beaucoup de contraintes contraintes de temps, etc. Donc vous, est-ce que vous avez pensé à cet auteur quand vous êtes fait un peu un délire d'écrivain en vous disant allez, ça va être un défi pour moi, ou bien c'était vraiment quelque chose de...
Ah non, mais si je pouvais me tatouer Virginia Woolf, moi en plus c'est un combat. En tout cas, c'est une idée pour laquelle depuis que j'ai essayé de m'y coller, en fait, création et féminité, j'allais dire, mais plus que ça, maternité, c'est charge mentale, quoi, disons-le.
Pour vous, pour un homme, c'est beaucoup plus, c'est totalement différent. Il n'y a pas du tout le même rapport à l'écriture.
Ah, mais ça n'a rien à voir.
Ok.
Déjà, ça a l'air complètement évident pour tout le monde qu'un homme dise, bah oui, bon, je vais écrire, par exemple. Alors qu'une femme,
Vos amis, ils vous ont dit, t'es une femme, t'écris, c'est bizarre. Ils vous ont pas dit, t'écris, c'est bizarre. Ils ont dit avant le préfixe.
Non, moi, j'ai des bons amis.
Ah, c'est ça, bah oui, c'est ce qui me semble. Ouais. Pour moi, ça me paraissait normal. Enfin, je vois pas le.
Non, j'ai des amis qui comprennent ce qui se passe, mais je veux dire, je parle de
l'histoire de la littérature.
De l'histoire de la littérature, certes, mais de la société encore actuelle. Mmh. Et en fait, en réalité, quand on est femme et qu'on veut créer, c'est plus que compliqué. Et si on n'a pas d'espace à soi, c'est presque impossible.
Bah justement, on écoute une archive de Violette Leduc.
On n'est jamais content de ce qu'on a. J'écris des phrases d'asthmatiques, c'est-à-dire des phrases très courtes. Mon rêve d'écrivain, ce serait écrire des périodes à la Bossuet, des développements à la Jean Genet. Je n'irai pas jusqu'à Proust, mais si j'écrivais comme Genet, évidemment, je serais folle de joie. Mais hélas, je n'y parviendrai pas, c'est plus fort que moi, il faut que je coupe. Quand j'étais jeune, ma mère me disait toujours, si j'écrivais un petit mot à une parente, que tu es lourde pour t'exprimer, toujours des que raccourcis. Et comme ma mère m'a beaucoup impressionnée quand elle m'a fait des reproches, je pense que je lui dois aussi ce style aux phrases trop courtes.
Chère Violette Leduc, quelles sont vos joies d'écrivain ?
Je n'ai pas de joie. On pense toujours qu'on fera mieux, et c'est certain. Mais tout de même, justement, mes joies, c'est quand je suis une bonne travailleuse, une bonne besogneuse, c'est-à-dire que j'écris, par exemple, dans le Vaucluse, mes 3 heures le matin, mes 3 heures l'après-midi, comme un bureaucrate, avec ma montre en main, parce que je ne fais jamais de quart d'heure supplémentaire. Ou alors, justement, c'est que, étant lancée dans le travail, je dépasse mon horaire d'une demi-heure. Alors là, ce sont des vraies joies, quand je suis disciplinée, quand j'ai de la volonté, quand j'écris les heures que j'ai décidé d'écrire.
Alors, on vient d'entendre une archive de Violette Leduc en 1970 au micro de Pierre Lost. Vous, Pauline Delabroix-Allard, quel est votre rapport au travail, à votre éditeur, avec ce roman ?
Alors, l'histoire de ce texte, elle est un peu particulière. J'ai écrit ce livre pour moi et vraiment pas du tout dans la perspective d'être édité un jour. Donc, j'avais une liberté dans l'écriture qui était assez inédite, en fait. Enfin, du coup, personne ne l'attendait, ce texte, y compris pas moi. Donc, je savais pas s'il allait aboutir un jour. Et ce que dit Violette Leduc, je trouve ça incroyable. C'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que quand j'étais dans cette maison à la campagne, j'étais contente de moi, comment je faisais ce que j'appelais du bon travail, mais en fait, c'était juste du travail, c'est-à-dire quand j'avais écrit le temps que je m'étais que j'avais décidé j'avais un emploi du temps d'écrivain, ce qui n'a quand même pas de sens quand on y pense. Et donc je faisais comme elle disait, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, enfin vraiment voilà. Et puis au milieu de ça, une sieste. Enfin c'était comme ça. Et puis après, bien longtemps après, j'ai envoyé ce texte et il a été bien reçu, très bien reçu. J'ai eu le oui de plusieurs éditeurs différents. J'ai eu d'un coup une espèce de champ qui s'est ouvert devant moi. Et puis j'ai rencontré les éditions de Minuit, et donc là le travail il a été un peu différent. Il a été vers ce qu'elle disait au début, vers la concision du texte, et puis c'est amusant ce qu'elle disait, parce que moi aussi c'est ma mère qui m'a beaucoup impressionnée, qui m'a donné le goût de l'efficacité de la phrase, quoi. Et c'est ce que j'ai retrouvé en travaillant avec mon éditrice chez Minuit, quelque chose de très précis. Donc on a un peu travaillé la deuxième partie surtout.
Et pendant ce premier temps d'écriture, est-ce que du coup, avant d'arriver à un roman fini, il y a eu beaucoup d'écrémage, vous êtes beaucoup remis en question, est-ce que vous avez changé de style, est-ce que vous avez essayé de différentes approches, est-ce que la narratrice avait un prénom, est-ce que il y avait plus de choses à développer, ou bien vous êtes vraiment arrivé à un espèce de consensus comme ça, un peu naturellement, et vous êtes arrivé à ce livre-là, pas par magie, mais à force de travail bien sûr, mais un peu par hasard, vous avez essayé de driver un peu votre écriture pour arriver vraiment à avoir un prénom Sarah, morcelé comme ça.
La narratrice n'a jamais de prénom, l'enfant non plus, les compagnons non plus, ça c'était clair dès le début. Et en fait, le texte, comme on peut le lire, il a été presque écrit comme ça. Il y a eu vraiment très peu de retouches, y compris de moi-même. Et il a été écrit surtout chronologiquement, dans le sens où on peut le lire. J'ai du mal à... Enfin, je fais pas ce que font beaucoup d'écrivains, je crois, de revenir en arrière, revenir... c'est plutôt une ligne comme ça continue. En tout cas pour ce roman-là, mais avec par contre en prenant mon temps, c'est-à-dire que voilà, fragment après fragment, et parfois la phrase, une seule phrase d'un fragment, c'est vraiment des journées longues de travail pour un texte qui est finalement court, avec des fragments courts, des phrases courtes. On peut penser que c'est écrit comme ça dans une espèce de fluidité, mais souvent c'est quand même voilà, c'est penser, écouter, réécouter.
Oui, vous disiez que vous aviez vous-même fait peu de retouches par rapport à ce roman, et c'est drôle parce que juste avant vous évoquiez Demain dès l'aube de Victor Hugo, et lui-même c'est un des poèmes où il y a une seule rature sur ce poème-là qu'on peut voir dans ses brouillons. Et comme vient de l'évoquer David, du coup, est-ce que cette liberté dont vous parlez pour ce premier roman, est-ce qu'il y aura moins de liberté, plus de pression pour le second que vous avez en tête?
Bah, je m'en rendais pas du tout compte et voilà, mais j'ai vécu en fait dans l'écriture de ce roman-là une espèce de moment qui n'arrive plus jamais, c'est-à-dire que je me suis donné à moi-même la possibilité d'écrire quelque chose sans savoir ce que ça allait être et sans savoir que ça allait pouvoir rencontrer des gens qui allaient peut-être l'aimer, le détester, peu importe, mais en tout cas le lire et l'accueillir, et donc voilà, ça n'arrivera plus, ce temps-là il est terminé, donc si j'écris c'est pour le présenter maintenant, et je trouve que je m'y suis pas encore mise, et pour cause, mais je pense que du coup c'est pas du tout le même contexte d'écriture, et du coup c'est pas le même sentiment non plus. Moi, j'ai eu des moments d'immense joie en écrivant ce livre-là, mais parce que j'étais dans une naïveté, dans une inconscience, dans quelque chose de encore une fois presque d'enfantin quand on écrit dans sa chambre quand on est enfant, et du coup là, peu importe ce qui va m'arriver, peut-être que j'écrirai plus rien, mais en tout cas si j'écris quelque chose, je sais que ça va être dans l'idée de le présenter déjà à mon éditrice, et puis ensuite peut-être à d'autres gens. Donc c'est voilà, le contexte sera tout à fait autre, et je regrette a posteriori d'avoir été si naïve, si j'ose dire, et de pas m'être rendu compte de ma chance en fait.
Semble bien fidèle, comme un ange, un ami. Elle paraît, puis disparaît dans la nuit. N'aie pas peur de l'ombre, laisse-la s'allonger, légère à tes côtés. Thank you.
sont centrés sur un lieu que j'ai connu, dans lequel j'ai vécu, et qui ont imprégné mon corps. Celui-ci, ce lieu, Marrakech et un certain nombre de localités dans les environs, ont été très importants pour moi dans la mesure où là, plus qu'ailleurs encore, intervient une donnée fondamentale de l'espace qui qualifie et caractérise toutes les autres, c'est-à-dire la lumière. Parmi toutes les données de l'espace, dans lesquelles je fais intervenir le tempo notamment, et la durée, il y a cette prégnance de la lumière qui est pour moi fondamentale. Le problème pour moi dans une scène que je vais décrire, où il va se passer quelque chose d'important, est d'abord d'apprivoiser la lumière, c'est-à-dire de procéder par touche pour bien éclairer la scène. Il y a d'autres moments aussi où on dirait que c'est plutôt la lumière qui cherche à apprivoiser mes yeux.
Alors il faut partir. Vite. Ne pas rester dans cette ville. Pendant 2 jours, 3 peut-être, je marche dans Paris. Beaucoup. Presque sans m'arrêter. La nuit et le jour. Je passe et passe encore par-dessus le fleuve. Je cours souvent. Après les bus, les pigeons. Après elle. Je marche dans ma ville. L'avons-nous tant arpentée pour que chaque coin de rue m'envoie un souvenir d'elle ? Il faut prendre un train, un avion, un bateau. M'en aller. Vite. J'ai peur qu'on me retrouve. Qu'on sache ce que j'ai fait. J'ai peur qu'elle me débusque. La mort aux trousses. C'est elle, la mort. Sarah, la mort. J'ai peur qu'elle m'attrape à nouveau dans ses filets. Je ne veux plus voir ses yeux. Ses yeux si beaux. Ses yeux qui tombent.
Vous entendiez une archive de Claude Ollier, 1989, suivie par la lecture par Romain de Bec de Lièvre de « Sarah contre Sarah », écrit par Pauline de Labroix-Allard. Comment on apprivoise la lumière, comme le dit Claude Ollier? Comment on choisit ces paysages-là?
C'est une très bonne question et elle m'a tenue en haleine pendant toute l'écriture du livre, puisque j'avais envie que la deuxième partie qui se passe donc à Trieste, qui est la partie du deuil, la partie de la souffrance, la partie de l'introspection, la partie sombre, si on le résume comme ça, j'avais très envie qu'elle soit quand même pleine de lumière, et donc c'était compliqué pour moi, et du coup il y a cette expression qui revient souvent de soleil pas possible, c'est-à-dire que le monde en tout cas a cessé de tourner rond du moment où Sarah n'y est plus, et c'était puisque c'était elle le soleil, hein, voilà, c'est pour ça, et d'un coup quand même la beauté perdure, quand même la lumière aussi, et cette lumière à Trieste est tout à fait particulière, et ce soleil, voilà, ce soleil pas possible, ce soleil sur la mer, ce soleil sur ce soleil qui n'en finit plus d'exister, alors que on voudrait que le monde soit noir et que la vie se termine. Donc voilà, ça, c'est une question ça a été compliqué pour moi, et j'espère avoir quand même réussi à ce qu'il y ait des touches, voilà, de lumière dans cette partie très très noire, très sombre.
Donc un jeu de contraste, un balancier entre lieu peut-être de fuite et lieu de refuge.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la narratrice se retrouve à Trieste, et c'est pas par hasard. C'est une ville où moi ce que j'y ai vu quand j'y suis allée, c'est que c'est une ville où on peut s'inventer, on peut se réinventer, on peut décider qui on veut être. C'est-à-dire que toutes les langues sont parlées dans les rues. C'est assez fascinant. On peut parler le français, l'italien, le croate, l'allemand. Enfin bref, il y a une synagogue en face d'une église sur la même place, il y a la mer très belle et très, j'allais dire, autrichienne, avec un port incroyable. Puis à côté, ce port désaffecté, pourri, il y a les ruelles qui montent, parce que c'est une ville comme ça, perchée, très italienne. Enfin voilà, on peut choisir son architecture, son sa vie. Et en même temps, ce qui s'y passe, c'est que la narratrice qui part pour ça, pour peut-être retrouver une nouvelle vie, elle retrouve au contraire son enfance. C'est-à-dire que le monde monde se rétrécit. Elle pensait que le monde allait s'ouvrir et le monde se rétrécit. Il se rétrécit tellement qu'elle revit des épisodes de l'enfance.
Et qu'elle est même enfermée au café. Parce que c'est vrai que dans la deuxième partie du roman, on voit pas trop ce côté tourisme. On voit vraiment qu'elle est assise au café, qu'elle boit des spritz, c'est que son nouvel amoureux, c'est l'alcool, en fait. Et que le seul moment, en fait, elle va revivre une deuxième tragédie dans sa vie, c'est que, bon, Sarah n'est plus avec elle, du coup, elle part à Trieste, elle boit des spritz, 20, 40, 50, tous les jours, et après, elle perd son sac. Et on sent que c'est ça qui va la rendre complètement tarée. Elle se dit, bon, bah, ok, j'ai perdu ma meuf, j'ai perdu mon sac, je peux plus boire de spritz parce que j'ai plus d'argent. Le barman, je le connais bien, donc il me fait des petits prix. Mais elle se dit, bon, elle craque, et après, elle repart, et elle revient dans sa vie naturelle, mais on sent que c'est vraiment ça. Si elle avait gardé son sac toute sa vie, elle serait restée à Trieste, limite ad vitam aeternam, quoi.
Mais elle a perdu Sarah, mais Sarah est comme un spectre. Sarah est là, Sarah est présente, Sarah c'est le fantôme, elle la suit partout, elle la hante partout. C'est presque shakespearien. Donc en fait, elle est pas si seule que ça. Elle est complètement, elle arrive pas justement à être seule. Elle voudrait la chasser, elle essaye de la chasser, et puis ça fonctionne pas, quoi. Elle est possédée, elle est hantée. Et même au café, il y a Sarah à côté d'elle sur le siège, quoi.
C'est vraiment une occupation militaire. Bon, on s'arrête là. On laissera les lectrices et les lecteurs découvrir votre livre. Ça raconte Sarah, Pauline Delabroix à l'art. C'est publié aux éditions de Minuit et ça vient de remporter le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Un très grand merci à Lola Courtilla, David Dana et Lucie Couturier. Bravo pour cet entretien.
Merci.
Et une grande salutation aux autres étudiants et étudiants qui ont...
Lisez le livre de Pauline Delabroix à l'art, il est très bien.
Et tous les autres de la sélection. Merci à vous, Pauline Delabroix à l'art.
Merci.
Emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
Au son, Marie Le Peintre.
À la réalisation, Charlotte Roux.
Merci à Lou Quebeauvillier et Jeanne Aléos.
Et un grand merci à Mathieu Maroudin, coordinateur de ce prix du roman des étudiants France Culture Télérama, qui nous a aidés à préparer cette émission. À Romain Debecq de Lièvre et Marianne Chassor. Vous pouvez réécouter cette émission autant que vous voulez sur franceculture.fr et vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. On se retrouve demain à 21h.
Siamo, che confusione!